conférence privée au noviciat par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 11 mars 1993.
Sensibilité qui doit être saisie par cet esprit de virginité. Saint-Basile, un passage très beau. J'essaie de le retrouver. C'est facile à trouver, du reste, dans la règle de Saint-Basile. Sur l'esprit de virginité. Où il montre que l'esprit de virginité... Vous voyez, Saint-Basile et Saint-Benoît, il ne faut pas l'oublier, enfin, c'est les deux parallèles. Hein. Ce que Saint-Benoît est à l'origine, est à l'Occident, Saint-Basile est à l'Orient. Parenté entre les deux, c'est la vie de consécration à Dieu. Et Saint-Basile développe beaucoup cet aspect de la virginité qui s'empare de toute notre sensibilité et qui fait que toute notre sensibilité est offerte à Dieu et consacrée à Dieu dans notre chair humaine et à travers notre chair humaine. Donc rien n'est plus sensible que cette exigence de l'esprit de virginité. C'est être capable de répondre à l'appel du Christ, à l'appel du Père, un appel impératif qui fait que Dieu veut tout. Et la virginité, c'est l'amour divin qui ne veut pas de partage. C'est ça la virginité, l'esprit, la jalousie de Dieu. Dieu ne veut pas de partage. Dieu veut que tout soit donné, que tout soit offert, que tout subisse son attraction d'amour et que tout en nous subisse cette attraction d'amour et que nous mettons aucun obstacle à cette attraction d'amour de Jésus, du Père, de l'Esprit-Saint sur nous. C'est ça, l'alliance de l'époux et d'épouse. Elle regarde tous les chrétiens, mais elle se réalise d'une manière toute particulière vis-à-vis de ceux que Jésus choisit à la vie religieuse. Et c'est très net qu'au début, c'est cette consécration virginale qui constitue la vie religieuse. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pour qu'il y ait parmi des chrétiens ceux qui veulent que la jalousie du cœur du Christ ne trouve aucun arrêt, aucun obstacle. Et c'est pour ça qu'ils se coupent du monde, qu'ils se séparent de toutes les exigences du monde pour n'être qu'à Jésus. Exclusivement. Donc la marque à travers notre corps, à travers notre sensibilité, de cet appel impératif de l'amour du Christ sur nous. Jésus a tout donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus a tout donné. Jésus réclame de nous le don total. Alors, c'est ça qu'on doit comprendre en premier lieu. C'est une qualité particulière d'amour divin. Et cette qualité particulière, c'est que l'amour divin peut s'imposer d'une manière telle, c'est son caractère propre, d'une manière jalouse et divinement jalouse. Et donc, il ne tolère pas l'intervention de quelqu'un d'autre. Il ne tolère pas le partage. Cet esprit de virginité, pour se réaliser pleinement, réclame la chasteté parfaite. Alors, comprenons bien cela. Ce matin, je vous rappelais comment ça donne. vis-à-vis de l'aliment et ce bien sensible qui s'exerce auprès du concupiscible demande d'être réglé d'une manière prudentielle par la vertu de tempérance. La vertu de tempérance s'inscrit dans notre appétit naturel, cet appétit sensible à l'égard du boire et du manger, à l'égard de ce bien naturel, du bien du boire et du manger. Il y a donc cette vertu de tempérance qui est là pour empêcher que l'aliment, le riz, ou le pain, ou le vin, ait une trop grande influence sur nous. Alors, c'est mesurer cette jouissance de se nourrir pour que tout soit offert à Dieu, que vous mangez, que vous buviez, glorifiez le Seigneur. C'est pour que ça glorifie le Seigneur. jouissances individuelles et personnelles complètement en dehors de la finalité de cet appétit en vue de la procréation va contre le point de vue naturel et par le fait même exalte le besoin de se satisfaire à l'égard de certaines jouissances humaines. Et c'est pour cela que, au point de vue purement humain, au point de vue chrétien, avec une note plus nette, au point de vue purement humain, on comprend qu'il faut acquérir la vertu de chasteté. Ça s'acquiert. Celui qui n'a jamais été tenté de ce côté-là, pour des tas de raisons particulières, n'est pas chaste. Il n'y a pas de matière. La chasteté, on va dire tout simplement, il a là. Aristote dirait, il a un manque de sensibilité. Ça peut arriver. Complètement insensible de ce côté sexuel. Et ce n'est pas une qualité. Dominer ses instincts sexuels. Alors ça, c'est une qualité qui consiste à ordonner ses appétits sexuels liés à l'instinct sexuel, liés à l'appétit naturel de procréation. C'est leur permettre à cet appétit sexuel d'être éduqué et par le fait même d'abord humanisé et ensuite surnaturalisé. Parce qu'il y a une vertu infuse de chasteté avec la grâce chrétienne. Mais l'exercice de la vertu infuse de chasteté réclame la vertu acquise de chasteté. Alors, n'oublions pas, la vertu, elle est toujours et en premier lieu une question d'intention. La vertu est premièrement une question d'intention. Elle est dans notre âme spirituelle, cette intention. Elle est dans notre prudence, liée à cette vertu qui s'exerce dans le concupiscible. Et dans le concupiscible, ordonner à ses jouissances sexuelles, ordonner à cet acte sexuel de la procréation. Alors, pourquoi, pour répondre à la question, pourquoi la virginité réclame-t-elle la chasteté ? Étant donné que la virginité, c'est que notre cœur, dans ce qu'il a de plus profond, notre volonté spirituelle, dans ce qu'elle a de plus profond, qui veut répondre à tous les appels du Christ, à son amour unique. Et cet amour, c'est un amour qui s'exerce par l'offrande de tout le Christ pour glorifier le Père et nous sauver, et l'offrande de son propre corps. Être uni à la croix du Christ. Être uni à la croix du Christ, concrètement pour nous, c'est justement lui offrir cet appétit naturel vers la procréation, vers l'union sexuelle. Lui offrir cela pour que notre cœur se libère de tout le poids charnel. Pour que notre cœur ne se laisse pas appesantir par les jouissances sexuelles. Alors on comprend que l'esprit de virginité, pour s'incarner pleinement, réclame la vertu de virginité, la vertu de chasteté. Parce que si cette vertu de chasteté n'était pas là, et qu'il y ait des actes qui ne soient pas conformes aux exigences de la nature humaine, le poids de tout ce qui relève du point de vue sexuel l'emporterait très vite. Et il y aurait comme une opposition entre l'intention profonde du cœur de tout donner à Dieu et la manière de récupérer par notre corps des plaisirs sexuels, des plaisirs individuels. C'est vraiment l'esprit de virginité qui réclame cette très grande netteté. Alors, il faut préciser là comment l'esprit de virginité peut et doit exister chez tous les chrétiens. Et c'est pour ça qu'à l'homme nature, vous l'avez remarqué, quand on reçoit des oblats mariés, on n'hésite pas de leur dire que l'oblature réclame un esprit de virginité. Et ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute à leur vie chrétienne. C'est un rappel à leur vie chrétienne. Alors on reconnaît par là que l'esprit de virginité devra envelopper toute leur vie, mais ne pourra pas s'exercer avec autant de limpidité et de pureté que chez quelqu'un qui se consacre totalement à Dieu. Mais on maintient que, vu leur état de mariage, ils se doivent l'un à l'autre. C'est un droit de l'époux et de l'épouse, le droit du don des corps, qui doit se faire dans un esprit de pureté. Dans un esprit de pureté et sans recherche de jouissance pour la jouissance, avec toujours une rectification profonde, en respectant la fin de l'union conjugale. L'Église du reste, et alors c'est là où il faut bien comprendre, l'Église du reste comprend qu'il y a une question de prudence à avoir pour la question de la fécondité. Et c'est là où intervient, au point de vue prudent, si, de fait, on juge qu'on a déjà assez d'enfants et que ce serait difficile d'en avoir plus. C'est vrai, aujourd'hui, un foyer qui a 4-5 enfants, un jeune foyer, c'est quelquefois difficile d'en avoir plus. C'est leur problème. Ils en parleront au prêtre, s'ils connaissent un prêtre qui est suffisamment proche d'eux, parce que ça pose une question de prudence. Ça pose une question de générosité. Et puis si la mère est très fatiguée, ça pose une question aussi de prudence. Voyez, la chasteté dans le mariage demande que la vertu de prudence soit là pour faire que quand l'époux et l'épouse se donnent mutuellement, ce soit toujours dans un but qui soit naturel, vrai, à la fois pour s'aimer plus, et si Dieu le permet, la fécondité. Mais si cette fécondité est imprudente, l'Église permet que, au point de vue prudentiel, on puisse comprendre les périodes où l'épouse n'est pas féconde, normalement. Mais l'Église interdit de mettre des procédés qui empêcheraient la fécondité. Sont artificielles, puisque là on agit contre les exigences de la nature. Alors, vous voyez, l'esprit de virginité doit permettre à ceux qui vivent dans le mariage à faire que l'union du don de leur corps, l'union sexuelle, soit offerte à Dieu et permette aux deux de s'aimer plus et de comprendre que c'est Dieu qui est le maître de la fécondité et de l'amour, et donc que Dieu est le maître de leur union. Et donc, il est normal qu'ils s'en réfèrent à Dieu pour être pleinement et totalement conformes aux exigences de Dieu. Pour ceux qui sont dans le monde non mariés, et avant tout pour les religieux, où Dieu demande le célibat, Dieu réclame d'eux une chasteté parfaite, c'est-à-dire dans l'intention profonde de leur cœur de faire que leur corps soit offert à Dieu en holocauste d'amour, pour permettre de vivre généreusement de cet esprit de virginité en s'offrant à Dieu. Donc c'est une intention de vie, puisque ça met dans un état la vie religieuse qui s'empare de toute notre vie biologique, qui a la place d'être finalisée par la procréation et finalisée par l'offrande de nous-mêmes à Dieu, et exige de nous de vivre dans un esprit de virginité et et que cet esprit d'Urgéné s'incarne dans un état de chasteté parfaite. Qu'on en ait l'intention. Et cette intention, qui est l'union affective, réclame la réalisation concrète dans l'union effective. Que cette intention s'incarne dans notre vie. Alors, c'est là où on doit se connaître. Parce que il est bien évident que cet appétit naturel, cet instinct sexuel, comme on dit aujourd'hui, est très différent des uns des autres, de la femme et de l'homme, et qu'il a de fait une diversité pour chacun. Si vous avez été éduqué chrétiennement dès votre enfance, avec une mère qui veillait à ce que l'éclosion de la puberté puisse se réaliser normalement, il y a donc un effort de vertu dès le début qui, je ne dis pas du tout, supprime les luttes. Ce serait faux. Parce que c'est un terrain volcanique. Alors, 15 ans, 16 ans, 18, 20 ans, après, ça reprend et ça peut reprendre. Mais il y a la vertu qui a été acquise et qui aide beaucoup, qui assume et qui oriente vers un amour divin. Vous voyez, ceux qui n'ont pas eu cette grâce du Seigneur et qui, de fait, à cause d'une éducation non chrétienne et psychologique. Parce que vous savez bien que dans certaines perspectives psychologiques, on dit oh, vous êtes tenté de ce côté-là, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout. Et exactement comme si vous avez faim d'aller manger, il y a un appétit sexuel, mais satisfait-le, et puis c'est tout. Aujourd'hui, ça se dit couramment. Et on éduque les jeunes comme ça. Alors vous comprenez que c'est beaucoup plus difficile de rééduquer et de reprendre. Ce qu'il faut, par le fait même, être infiniment miséricordieux vis-à-vis de ceux qui n'ont pas eu cette éducation chrétienne et qui, dans ce domaine-là, auront des difficultés plus grandes. C'est pas plus coupable, dites-vous bien, que les manques de charité. Et les manques de charité, au point de vue de la charité fraternelle, sont beaucoup plus coupables que des fautes de ce domaine-là. Celui qui ne cesse de dire du mal de son frère, parce qu'il ne peut pas le gober, et qui ne cesse de dire du mal de son frère, parce qu'il ne pédale pas du même pas, parce qu'il n'est pas du même milieu, parce qu'il fait des bêtises. Mais ses fautes contre la charité fraternelle sont plus graves que les fautes contre la chasteté. La différence est que les fautes contre la chasteté ont une répercussion sur notre sensibilité plus grande. Et quand on voit dans certains salons distingués, soi-disant chrétiens, la manière dont on boit le thé, bien assaisonné, avec des jugements perfides sur telle ou telle personne influente et importante, empoisonné. Et c'est plus grave que des fautes qu'on cache, que la raison de cacher, tu vois, c'est évident. On ne va pas les afficher. Vous voyez, c'est extrêmement difficile de garder un équilibre juste. On doit tous tendre, si on a fait une profession, vers une chasteté parfaite. C'est bien évident. Et on demande à la Vierge Marie la grâce de ça. Et on est persuadé qu'avec la grâce de la Vierge Marie, c'est possible. Il ne faut pas dire du tout, comme disent certains psychologues aujourd'hui, que c'est impossible. On l'a encore dit l'autre jour et parti, hein, certains articles. Dans le monde, il y a des articles terribles encore là-dessus. Ça revient tout le temps, ça. Ce qui montre que le démon n'aime pas la chasteté parfaite des moines et des religieuses. Dès qu'il peut tirer, il tire. Tout de suite. Parce qu'il sait que ça dégrade. Et c'est vrai qu'il y a des catastrophes, on est tous d'accord. On n'est pas infaillible dans ce domaine-là, on n'est pas. Mais le démon s'en sert pour diminuer la dignité de la consécration à Dieu. Ça peut être héroïque de faire des vœux dans notre monde d'aujourd'hui. Ordinairement, le vœu le plus héroïque, c'est beaucoup plus l'obéissance. Beaucoup plus. Parce que ça exige de remettre sa volonté propre aux autorités supérieures. Ça peut être pour certains héroïque, la pauvreté. C'est vrai. Et la chasteté peut être, chasteté parfaite peut être pour certains héroïque. C'est vieux ça, hein. Quand on voit les pères du désert, c'est parce qu'ils étaient tentés à aller se mettre dans, se rouler dans les orties, se On vous demande pas de faire ça, n'est-ce pas? Parce que c'est donner des disciplines de faire. Non, je crois que les procédés, c'est beaucoup plus la prière. Et une confiance totale en Marie. On doit lutter et on doit se connaître. Parce que la manière de lutter n'est pas la même pour tout le monde. Et les procédés de lutter sont différents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, très souvent, vous aurez des médecins, des psychanalystes qui ne croiront absolument pas à la possibilité d'une chasteté parfaite. L'esprit de virginité, ils croiront encore. Mais la chasteté parfaite, non. Parce que c'est l'incarnation, vous voyez. Alors, il faut, malgré tout cela, on sait que l'Église maintient cela. Et si l'Église le maintient, c'est parce qu'elle sait qu'avec la grâce de Dieu, c'est possible. Mais il faut lutter. Ça, c'est bien évident. Ça ne vous tombe pas du ciel. Tout cuit. Non. Il faut lutter. Surtout si, dans sa jeunesse, on a eu des écarts. Faut pas s'inquiéter, du reste. Ça touche beaucoup les anges de voir qu'on lutte dans ce domaine-là. Parce qu'eux n'ont pas lutté. La vertu de chasteté n'existe pas dans les anges. La vertu de chasteté, c'est notre corps qui doit être petit à petit habité par la grâce et par l'amour et par l'esprit de virginité. Et de comprendre que, de fait, c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a des périodes où ces vertus sont plus difficiles. Tout le monde sait que dans la Rome, au moment de l'Empire romain décadent, c'était très difficile. Tout le monde connaît l'histoire de Sodome et Gomorre. période difficile. Toutes les périodes de décadence, c'est très curieux, sont des périodes difficiles. On sait qu'aujourd'hui, c'est une période de décadence et que c'est difficile. Alors, il faut être d'autant plus vigilant. Mais je crois que quelqu'un qui lutte, et qui lutte en demandant à la Vierge Marie, il est sûr d'être victorieux. Il l'est par l'intention. Et si, de fait, malgré son intention, à cause de la fatigue, il y a une lâcheté, une faiblesse, c'est très peu de choses aux yeux de Dieu. Parce que Dieu regarde en premier lieu les intentions. C'est dit dans le livre de Samuel, vous savez. Dieu ne regarde pas en premier lieu les apparences. Dieu regarde en premier lieu les intentions. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est l'intention de notre cœur. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de changer nos intentions en velléité. En disant, mais j'ai de très bonnes intentions, mais je sais que dans la lutte, ça ne va pas du tout. Non, c'est trop facile, vous voyez, de faire cette espèce de partage des eaux. Soi-même, non, on lutte avec efficacité, on lutte en désirant que ce soit efficace. C'est très important. Et du reste, ça fait partie de notre personne humaine. Personne dit, on désire acquérir des vertus, et les vertus, on désire toujours les acquérir. La justice, la tempérance, la chasteté, on désire les acquérir dans la lutte. Et on demande la grâce pour les acquérir dans la lutte. Et je crois que dans ces domaines-là, il faut toujours avoir une très grande ouverture de cœur vis-à-vis de celui ou de celle qui nous conduit et nous aide. Toujours. Et que c'est bon et que c'est nécessaire. Parce qu'on est très mauvais juge, vous voyez. C'est vrai, on est d'une subjectivité terrible dans le domaine de l'appétit sexuel et de l'appétit de la tempérance. Et il faut arriver petit à petit à discerner le point de vue de la sensibilité et le point de vue de l'appétit sexuel. Pour Freud, et ça fait partie de ces confusions de Freud, toute sensibilité est une sensibilité sexuelle. On a l'impression qu'il n'a jamais vu un enfant. Pour Freud, les deux se tiennent tout le temps. Alors c'est terrible, vous voyez, parce qu'alors on comprend très bien qu'au fond, on ne peut plus acquérir la vertu de chasteté. Parce que c'est la sensibilité elle-même qui va être supprimée. Non, Freud ne se gêne pas. Hein. C'est pas gênant pour lui. Parce que pour lui, tout appétit demande d'être satisfait. Autrement, il y a un refoulement. Alors qu'il faut comprendre que le refoulement n'existe que s'il n'y a pas d'intention profonde. S'il y a une intention profonde de dépasser par un plus grand amour, cette intention profonde de dépasser par un plus grand amour permet les luttes. Et ne crée pas de refoulement. Un homme vertueux n'est pas un homme refoulé. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup lutté dans sa vie. Alors il faut bien discerner ce point de vue-là, la différence entre la sensibilité et puis le point de vue sexuel qui n'est pas le même. Ce qu'Aristote a très bien discerné, ce que saint Thomas discerne aussi très bien, et que nous pouvons tous discerner, et comprendre que la vertu de chasteté est à l'égard justement de cet appétit sexuel. La sensibilité, elle est liée à la tendresse, elle est liée à l'amour, et l'amour spirituel qui s'incarne implique une sensibilité. Alors, qu'on fasse attention au point de vue de la prudence, qu'on sache que c'est sûr, une sensibilité trop grande risque toujours d'éveiller un appétit sexuel. Parce que ça se tient, c'est distinct. Et dans l'exercice, il peut y avoir comme une sorte de continuité. Et puis on doit tout le temps se rappeler que la faute est toujours volontaire. Et que ce que dit saint Thomas, quand la passion est antérieure à l'acte, la passion diminue la responsabilité. Quand la passion est après l'acte, alors la passion manifeste l'intensité de l'acte. Et là, il y a un petit discernement qui est très important à faire au point de vue de sa conscience. Vous voyez, ce domaine demande une très grande lucidité pour ne pas tomber dans le scrupule, pour ne pas tomber dans l'inverse du scrupule, le libéralisme absolu. Puisqu'il y a un appétit naturel, rien n'est mauvais, tout est bon. Alors les deux extrêmes, et dépasser ces deux extrêmes par une lucidité très grande, une intention de vie très nette, de garder une limpidité très grande de cœur et d'esprit au point de vue esprit de virginité et une très grande soif de virginité, de chasteté parfaite au point de vue de la vertu, au point de vue de l'intention et au point de vue des moyens qui nous permettent la réalisation de la